Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc pour cette table ronde qui porte sur le gaspillage alimentaire. Manger mieux, gaspiller moins, c'est le thème cette année de la semaine européenne de la réduction des déchets qui s'est déroulée toute cette semaine du 16 au 24 novembre. Et dans ce cadre, la communauté de communes Royan-Vercors et les différents acteurs du réemploi du territoire Royan-Vercors se mobilisent en organisant notamment cette journée zéro déchet, donc ce samedi 23 novembre, à Saint-Nazaire en Royan. Au programme, vous avez des ateliers pratiques, des animations, des espaces d'information, mais aussi donc cette table ronde en partenariat avec Radio Royan-Vercors qui porte sur le gaspillage alimentaire et où nous accueillons plusieurs invités avec qui nous allons échanger sur ce thème. Tout d'abord, à ma droite, Brice Gébessi, chargé d'animation du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés au CITRAD, qui est le syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme. Bonjour Brice.
Bonjour.
Du côté de la CCRV, nous avons Laurine Vignon, qui est technicienne collecte et valorisation des déchets, donc à la CCRV. Bonjour Laurine.
Bonjour.
Également Vincent Jordon, chargé de mission plan alimentaire territorial, donc à la communauté de communes.
Bonjour.
Bonjour Vincent. Nous avons également Nicolas Formé, qui est paysan boulanger, membre du GAEC de la ferme des Roussets à Saint-Jean. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Et Bastien Faure, qui vient avec une double casquette, celle de restaurateur de Jacopin, de la boulangerie Jacopin à Saint-Thomas en Royan, mais également donc en tant que producteur du Champ des Gamelles à Échevis. Bonjour Bastien.
Bonjour.
Au cours donc de cette table ronde, nous allons parler notamment des chiffres du gaspillage alimentaire, donc de la semaine européenne de réduction des déchets et des différentes manières donc de réduire justement ces déchets. Nous parlerons également des associations et des initiatives donc qui luttent contre ce gaspillage alimentaire et des différentes actions qui sont mises en place à la fois donc du côté des producteurs, donc représentés aujourd'hui, également dans la restauration collective et dans la restauration commerciale. Et enfin, nous terminerons avec les trucs et astuces pour permettre de gaspiller moins dans votre quotidien, les bons gestes à adopter. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, poser des questions à nos invités à la fin de la table ronde. Il y aura un temps donc de questions du public. Et je vous signale donc que la table ronde est enregistrée, comme vous pouvez le voir, pour être diffusée donc en tant qu'émission sur les ondes de Radio Royan-Vercors, donc 93 FM. Grâce notamment donc à l'appui technique de Jean-Claude, bénévole pour Radio Royan-Vercors, qui est à mes côtés. Et on va commencer donc tout de suite, je vais commencer tout de suite par vous donner quelques chiffres sur le gaspillage alimentaire pour mettre un petit peu de contexte. Donc des chiffres qui donnent un peu le tournis. Donc à noter que tous les acteurs de la chaîne alimentaire sont concernés, qu'il s'agisse des producteurs, transformateurs, distributeurs, restaurateurs ou ménages. Puisque les aliments peuvent être abîmés donc lors du transport, rejetés pour leur forme un peu atypique, délaissés dans les supermarchés ou encore gaspillés à la cantine ou au restaurant, jetés à la maison. Et au total, donc, selon la dernière étude de l'ADEME sur le sujet qui est un peu la référence donc sur le sujet du gaspillage alimentaire qui date de 2016, 10 millions de tonnes d'aliments sont perdus et gaspillés chaque année en France, donc 10 millions de tonnes. Et donc pas seulement lors de la phase de la consommation qui représente environ un tiers des pertes, mais également lors de la production, la transformation, la distribution. Et ça représente donc une perte de 29 kilos par personne et par an. Nous reviendrons également donc sur la valeur, sur le coût économique en fait de ce gaspillage alimentaire qui ont une valeur théorique de 16 milliards d'euros qui correspond à leur prix de vente. Et qui également représente l'équivalent CO2, l'impact carbone, évalué à 15,3 millions de tonnes, c'est-à-dire 3% de l'ensemble des émissions au niveau national. Voilà pour les chiffres, des chiffres que vous connaissez bien, Brice, puisque donc vous faites de la sensibilisation auprès du public dans le cadre de votre métier sur la question du gaspillage. Peut-être qu'on peut commencer avec un point un petit peu sémantique, enfin pour définir un petit peu le gaspillage alimentaire, en fait, de quoi est-ce qu'on va parler quand on parle de gaspillage ?
C'est la question que je pose généralement lors de mes animations sur le territoire. Donc, je suis en charge du programme local de prévention des déchets ménagers assimilés, comme vous l'avez signifié. Et en gros, c'est un programme qui a plusieurs axes. Et dans ces axes, il y a des actions précises, concrètes à mettre en œuvre pour réduire au maximum les déchets. Et l'un des axes stratégiques de ce programme, c'est bien sûr la lutte contre le gaspillage alimentaire. La question qu'on pose pour entrer dans le vif du sujet, c'est quoi le gaspillage alimentaire? La définition, elle est simple, hein, tout le monde la connaît, c'est jeter de la nourriture. Donc dès que ce soit chez le producteur, chez le distributeur, chez le transporteur jusqu'au consommateur, dès qu'il y a le geste de jeter de la nourriture, on est dans le gaspillage alimentaire.
Et je crois qu'il y a une petite nuance sur le côté justement comestible de cette nourriture. C'est quand on jette de la nourriture comestible. Mais est-ce que sont pris en compte par exemple les os de poulet ou les choses que les êtres humains ne peuvent pas consommer?
C'est vrai que de manière stricte, on dirait que c'est de la nourriture consommable. Mais après, ce qui n'est pas consommable pour moi peut être consommable pour l'autre. Où je devrais réfléchir, parce que dans le gaspillage alimentaire, il y a deux niveaux. Il y a, c'est vrai, le gaspillage alimentaire en tant que production de déchets, et il y a le gaspillage alimentaire en tant que je gaspille de la nourriture, ce qui est peut-être comestible en fait. Cependant, de manière, on va dire, pratique, il est vrai que si je ne peux pas manger ou c'est pas comestible, je prends l'exemple des aliments variés. Je vais pas les conserver parce qu'il y va de ma santé. Donc, il y a quand même une nuance sur cette question.
Oui, oui, la nuance est fine, en fait, entre finalement ces aliments qui pourraient être consommés et ce qui devient un déchet d'origine alimentaire, quelque part, mais pas forcément consommable.
On pourrait prendre l'exemple typique des légumes moches, des légumes à un certain niveau abîmés, parce qu'il y en a, dès qu'il y a une petite tache sur la carotte, rapidement, le réflexe, c'est le foutre à la poubelle. Pourtant, on peut juste prendre un couteau, retirer la partie qui est, on va dire, endommagée, et peut-être de redécouper le légume pour le réutiliser. Donc, c'est vraiment la relation que les uns et les autres ont avec la thématique du gaspillage qui fait la différence.
Et autour de ce gaspillage, peut-être qu'on peut parler des enjeux qui vont rentrer donc dans cette thématique du gaspillage. Qu'est-ce que, à part gâcher des aliments, qu'est-ce qui est impliqué dans ce gaspillage?
Il y a plusieurs enjeux. Déjà, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde et plus juste à côté de nous, les inondations en Espagne et tout, ça interpelle plus sur l'impact, on va dire, du gaspillage alimentaire sur l'environnement. Aujourd'hui, des derniers chiffres qui sont sortis, il a été dit que si le gaspillage alimentaire était un état, en matière de production de gaz à effet de serre, il serait juste derrière les États-Unis et la Chine. Donc, comprenez avec moi que le premier levier, c'est déjà l'impact carbone. Parce que tout ce qui est mobilisé, déjà, c'est une parcelle de terre qui est utilisée, donc qui est défrichée, qui est utilisée pour faire du semis ou des plants. Il y a également toute l'énergie qui est utilisée, tant par l'agriculteur, mais également les énergies fossiles pour faire marcher les machines et tout, pour récolter. Il y a le transporteur, donc il y a tout ce schéma-là donc qui est en ligne de compte. Également, il y a nous-mêmes au niveau, il y a le levier économique, hein. C'est de l'argent qu'on investit personnellement et parfois c'est l'argent que l'État investit parce qu'il y a des engagements financiers importants sur la question de l'alimentation. Et ensuite, il y a aussi la question de l'alimentation durable, mais aussi l'alimentation accessible à tous parce qu'il y a aussi la question de la précarité alimentaire. Et il y a donc, il y a les gaz à effet de serre, il y a le fait qu'on manque de respect aussi à l'agriculteur qui s'investit, on manque de respect à notre propre agent parce qu'il provient de notre activité, puisque généralement on achète de la nourriture, c'est bien sûr pour consommer, c'est pas pour que directement ça arrive à la poubelle. Donc il y a un enjeu économique et il y a un enjeu humanitaire qui est pour moi est plus important parce qu'il y a encore aujourd'hui 15 à 20% de la population mondiale qui meurt de faim. Et donc de regarder cette réalité et nous, au moins, de ne pas tenir compte de la réalité du gaspillage alimentaire, c'est pas bien.
Oui, ça va poser même un problème éthique de jeter des aliments à la poubelle, oui. Alors que d'autres gens en auraient besoin. Non. Est-ce que peut-être on peut également faire un point sur le côté réglementation, donc sur le gaspillage alimentaire, notamment avec la loi AGEC en 2020, donc qu'on appelle aussi la loi anti-gaspillage.
Ok. C'est vrai que la question du gaspillage alimentaire en matière de réglementation aujourd'hui se porte on va dire, un peu mieux. Parce que la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage et économie circulaire, a apporté plus de précisions et plus de restrictions. Il y a quelques années, je prends l'exemple des grandes distributions. La grande distribution avait la possibilité automatiquement de détruire ou de se débarrasser d'une manière ou d'une autre de ses invendus. Mais aujourd'hui, la restriction est qu'ils devraient trouver des débouchés vertueux au reste alimentaire, au reste des articles vendus. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que dans les différents supermarchés aujourd'hui, il y a une zone anti-gaspi où on met automatiquement les articles qui sont à date coûte. Bon, c'est vrai qu'il y a l'effet, on va dire, revers qui est que les Restos du Cœur et autres qui récupéraient généralement en reçoivent un peu moins. Mais il y a cette réglementation aujourd'hui qui oblige à ne pas systématiquement détruire. Et deuxième chose, la loi anti-gaspillage et économie circulaire aujourd'hui, au-delà de trouver des débouchés vertueux, agit également sur la conception, sur le process. Aujourd'hui, il y a également des restrictions qui emmènent les acteurs, les différents acteurs de la chaîne à faire en sorte que le produit soit plus vertueux, il n'arrive pas tout de suite au gaspillage alimentaire. Je prends l'exemple des DLC, voilà, des DLC de l'eau. Ouais, il y a ça. Également aussi sur la qualité de l'emballage, voilà, parce que il y a des emballages qui sont plus éco-conçus que d'autres. Et en plus, même au-delà de, parce que la loi AGEC va au-delà du gaspillage alimentaire, il y a aussi, par exemple, pour tout ce qui est indice de réparabilité, pour tout ce qui est niveau d'éco-conception. Donc, mais on est vraiment à un bon niveau au niveau de la légalité. Il y a d'autres choses encore qui doivent venir comme restrictions sur la question.
Encore d'autres changements apportés par cette loi AGEC qui vont
arriver? Oui, parce que dans la loi AGEC, il y a un décret d'application qui au fil du temps. Aujourd'hui, on est, on va dire, les dernières restrictions, c'était d'abord à l'horizon 2025, mais on a des restrictions qui vont jusqu'à l'horizon 2030 et on a des projections pour 2050. Donc, aujourd'hui, au moins, on arrive à se projeter et donc on sait qu'on va partir de restriction en restriction. C'est déplorable, mais c'est la réalité. Tant qu'il n'y a pas de loi, les gens, ils ne bougent pas, en fait. Voilà.
Et est-ce qu'en 2025, donc, on peut peut-être évoquer un changement en particulier qui va arriver?
Déjà, on va dire, c'est le changement, il est déjà effectif en termes de restrictions, en termes de possibilités, par exemple, pour des structures de pouvoir faire don de leurs invendus, notamment à des associations. Avant, les restrictions, on va dire, limitaient ou réglementer ça de telle sorte que la charge administrative était tellement lourde que tant les associations que les structures ne voulaient pas aller dans ce sens parce que ça prenait du temps et de l'argent de le faire. Mais aujourd'hui, les normes tendent à se rendre plus flexibles pour que les épiceries solidaires, les associations et autres structures aient la possibilité d'avoir des partenariats qui permettent de récupérer des invendus et de les redistribuer aux populations dans le besoin.
Bien, merci donc pour ce point sur la réglementation. Je vous propose maintenant de revenir sur la semaine européenne de la réduction des déchets qui se déroule, donc je le disais, du 16 au 24 novembre et qui a donc ce thème « Manger mieux, gaspiller moins ». Laurine Vignon, donc, qui est technicienne collecte et valorisation des déchets à la CCRV. Est-ce qu'on peut un petit peu décrire à nos auditrices et à nos auditeurs le principe de cette SERD?
Oui, donc la SERD, Semaine européenne de réduction des déchets, est à la base une initiative de sensibilisation menée à l'échelle européenne qui a lieu chaque année à la fin du mois de novembre. Et en France, elle est coordonnée par l'ADEME, l'Agence de transition écologique. Donc la SERD a pour objectif de promouvoir des actions concrètes pour réduire la quantité de déchets générés. Et d'encourager en fait à de nouvelles pratiques de consommation. Donc chaque année, elle a un thème. Cette année, le thème phare, donc c'est manger mieux, gaspiller moins. Après, malgré tout, on aborde en fait la question des déchets en général, mais c'est vrai qu'il y a toujours quand même un thème phare. Voilà ce que je peux en dire.
Donc si on élargit effectivement ce thème, donc lutter contre le gaspillage alimentaire, ça va être un levier pour réduire ces déchets. Mais plus largement, est-ce qu'on peut peut-être donner quelques pistes pour arriver donc à réduire ces déchets?
Oui, alors outre le volet alimentaire, donc c'est vrai que la table ronde est ciblée gaspillage alimentaire, mais la réduction des déchets, c'est vrai que c'est très large. On peut en profiter du fait que sur notre événement d'aujourd'hui, on a des acteurs en fait de la réduction des déchets en général qui nous permettent en fait de nous interroger sur notamment nos objets du quotidien, notre consommation au quotidien. Et nos fameux objets que, à un moment donné, en fait, se dire, bon, celui-là, il ne fonctionne plus. Qu'est-ce que j'en fais? Lorsque l'on voit ce qu'on trouve dans nos poubelles, on voit que la question, elle est souvent vite réfléchie et ça part vite à la poubelle. Donc là, on peut, se questionner sur tout ça. Et en fait, on se rend compte que sur notre territoire, on a la possibilité, notamment, de faire réparer nos objets qui ne fonctionnent plus. Au lieu de les jeter, on a un réseau de réparateurs assez foisonnant, que ce soit dans le domaine de l'électronique, de l'informatique, de la couture, des chaussures, des meubles, je vais en oublier, des engins thermiques. On a vraiment, vraiment de quoi faire sur Royan-Vercors pour pouvoir réparer en fait la plupart de nos objets du quotidien. D'ailleurs, j'en profite à ce sujet-là pour préciser que on a notamment sur la Chapelle en Vercors la recyclerie de la piste recyclable qui nous propose chaque mois un atelier de réparation de nos objets du quotidien. Et puis on a aussi sur le Royan les Tracols qui sont présents aujourd'hui qui mettent en place des repères café le premier jeudi de chaque mois. Et là encore, ça va permettre de pouvoir diagnostiquer nos objets, voir quel est le problème et voir si on peut le réparer ou pas. Mais on a, c'est quand même sur le Royan et sur le Vercors, ces deux acteurs associatifs qui permettent à moindre coût, à prix libre, de pouvoir vraiment réparer nos objets. Et puis, au-delà de ça, c'est vrai que si nos objets ne sont pas cassés, mais que en fait on souhaite s'en débarrasser, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses neuves dans les conteneurs. C'est impressionnant. Toujours pareil, on a la chance, Royan-Vercors, on a des recycleries, deux recycleries, une sur le Royan, une sur Vercors, qui vont permettre de nous pouvoir qui vont pouvoir récupérer toutes sortes d'objets, alors en bon état, hein, mais que ce soit du textile, de l'électroménager ou autre. Donc je vais peut-être rappeler les horaires. À la limite de ces recycleries.
Tout à fait, ouais.
Donc la recyclerie de Saint-Laurent, le bruit du placard, qui est ouverte en fait le mercredi et le jeudi de 14h à 17h, le vendredi de 15h à 18h, le samedi de 10h à 12h30, et puis la recyclerie de la piste recyclable à la Chapelle, qui elle est ouverte les jeudis et samedis de 9h30 à 11h30. Voilà, donc ça me semble important de rappeler que la réduction des déchets, elle passe aussi par là et par surtout la connaissance en fait des acteurs du territoire. Peut-être qu'on communique pas assez là-dessus, donc c'est aussi l'objet d'aujourd'hui en fait de faire connaître ces acteurs-là. Et voilà, on a des solutions pour ne pas jeter en fait.
Oui, il faut changer un petit peu ses réflexes quelque part. Penser d'abord à réparer si besoin et à donner si on en a plus
Exactement.
Besoin. Ouais. Et une fois donc que ce sont, pour revenir un petit peu donc au gaspillage alimentaire, une fois que ces aliments sont devenus des déchets alimentaires, quelle est la bonne manière de s'en débarrasser?
Alors là, il y a plusieurs possibilités. Si à la maison, on a des animaux type poules, cochons, etc., on va pouvoir s'en débarrasser facilement. Mais c'est pas la majorité des personnes qui ont cette possibilité-là. Le cas le plus simple, en fait, c'est le compostage. Donc que ce soit le compostage individuel, qui peut se faire à la maison si on a un petit bout de terrain à l'extérieur. Le lombricompostage également, si on n'a pas de bout de terrain à l'extérieur, on peut lombricomposter en appartement. Et puis, on le souhaite et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir son propre composteur à la maison, on développe en fait des composteurs collectifs sur le territoire. Royan-Vercors, pour permettre à tout un chacun d'aller y déposer ses biodéchets. Alors, pour l'instant, c'est en cours de développement. Toutes les communes ne sont encore pas équipées de composteurs collectifs, mais c'est en bonne voie de développement et voilà, ça devrait permettre à terme de pallier à ça. Alors, c'est vrai que la communauté de communes a pour dans ses obligations, en fait, elle doit pouvoir permettre à chaque habitant d'avoir une solution pour le tri de ses biodéchets. C'est vrai que depuis le 1er janvier 2024, on ne peut plus jeter ses biodéchets à la poubelle. Donc il faut des solutions et le compostage en est un. Après, pour le compostage individuel, donc on peut fabriquer un composteur. On peut aussi s'en procurer. Donc auprès de la commune actuellement, ils ont un coût de 15 euros. Voilà. Et puis ensuite, pour les composteurs collectifs, on peut fournir aux personnes qui en ont besoin, ce qu'on appelle des biosseaux, mais en fait c'est des petits seaux qui vont leur permettre d'aller transporter leurs biodéchets jusqu'au composteur collectif pour faciliter un petit peu.
Et quelles sont les communes qui sont déjà équipées donc de ces composteurs collectifs?
Oui. Alors on a la commune de Saint-Nazaire en Royan, alors sur Saint-Nazaire on a deux sites de compostage collectif. Sur Saint-Jean-Royan il y en a quatre. Sur Saint-Thomas en Royan il y en a un. On a aussi des sites sur Saint-Martin en Vercors, La Chapelle en Vercors, Vassu en Vercors, Saint-Julien en Vercors. Et on va prochainement équiper Sainte-Eulalie, Auriol, Saint-Agnan. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour ceux qui vont être... voilà, actuellement là où on en est. Ça va continuer d'évoluer.
Et puisqu'on parle compostage, on peut peut-être dire un mot d'une expérimentation sur le territoire qui s'appelle le Bocaworm, si je ne me trompe pas.
Oui, ok. Alors le Bocaworm, en fait, c'est un projet qui devrait naître cet hiver ou au plus tard, on va dire début printemps, à La Chapelle en Vercors. C'est un projet de valorisation des biodéchets des particuliers et des professionnels. Donc toujours dans l'objectif de trouver une solution pour ces biodéchets-là. Et ce procédé est un petit peu particulier. En fait, c'est complémentaire. C'est une autre manière que le compostage de valoriser ces biodéchets. C'est la technique Bocaworm. En fait, c'est un processus qui va permettre d'accélérer la transformation des déchets organiques, en fait. Donc ça, c'est un projet qui est en lien, en fait, avec plusieurs acteurs. Donc la MFR de La Chapelle en Vercors, la commune de La Chapelle, la CCRV, donc la Comcom, et puis, en fait, des chercheurs de Royal Canin. En fait, il s'avère qu'il y a un chercheur de Royal Canin qui a un pied-à-terre ou qui est très lié à Saint-Julien-en-Vercors, à la commune de Saint-Julien-en-Vercors. Et en fait, dans cette grosse entreprise, etc., ils doivent mettre en place des projets de recherche sur cette thématique-là. Et en fait, ils ont décidé ils ont proposé que le Vercors, le Royan Vercors, puisse être un terrain d'expérimentation pour mener à bien cette technique. Donc, en fait, en gros, l'idée, c'est de comment dire. Que la matière organique, il y a une prédigestion de cette matière organique-là qui va être mise en contact avec une litière ensemencée de levure. Cet ensemencement se fait avec... donc c'est une litière et des levures locales. Hein, tout est fait dans le Vercors. Hein, il n'y a rien qui vient du Japon ou de je ne sais quoi. Et donc ça permet en fait de prédigérer la matière organique qui ensuite va être mise en contact avec des lombrics. Donc au final, à la fin, on a un lombricompost. Les premières expérimentations montrent vraiment un produit fini de très très bonne qualité, avec un dégagement de CO2 qui est moindre que dans un processus de compostage classique. Voilà. Mais bon, vous en saurez plus au fur et à mesure qu'on va mettre en place ça sur le territoire. Et donc ça va commencer à La Chapelle en Vercors, et puis peut-être qu'en fonction des résultats, ça va se dupliquer un peu sur le territoire.
Une expérimentation à suivre donc pour ce Bocaworm. Peut-être qu'on peut aussi un petit peu présenter le CITRAD pour lequel vous travaillez, Brice. Donc vous qui êtes chargé d'animation du PLPDMA, on peut peut-être aussi expliquer ce que c'est.
Le CITRAD, c'est le syndicat de traitement des déchets en Ardèche et en Drôme. c'est un établissement public de coopération intercommunale d'échelon 2, donc qui couvre le nord et le centre de la Drôme et de l'Ardèche, et qui a été, on va dire, créé en 1992, si mes chiffres sont bons, parce que qui a fêté son trentenaire en 2022, je crois bien, et qui comprend 12 autres collectivités territoriales, dont la communauté de communes du Royaume Vercors. Le CITRAD s'occupe, comme son nom l'indique, du traitement des déchets. En fait, les collectivités ont la compétence collecte, dont s'occupe de la collecte, et le CITRAD, avec des centres de tri, des centres de traitement, des centres de valorisation, s'occupent du traitement en général. Le traitement, il est à plusieurs niveaux. On a déjà le traitement des emballages avec le centre de tri Métropolis de Port-les-Valences que vous pourrez passer visiter. On organise des portes ouvertes tous les premiers mardis de chaque mois, de 18h à 20h. On a le centre de valorisation de Toile-sur-Rhône qui reçoit toutes les ordures ménagères résiduelles. On a le centre de Borrega-Barry qui s'est engagé spécifiquement aussi sur les CRCR qui sont les combustibles solides de récupération. Donc là, on est sur la valorisation énergétique. Et on a le volet administratif du CITRAD qui comprend un pôle communication, animation et prévention dont je fais partie, un pôle technique et un pôle administration générale. Ça, c'est pour ce qui concerne le CITRAD. Spécifiquement, le CITRAD a reçu par délégation des EPCI, c'est-à-dire des collectivités territoriales, la compétence sensibilisation et prévention. Donc, nous réalisons dans plusieurs sensibilisations, notamment dans les écoles, chez les tout-petits, dans des écoles, dans des collèges également et lycées. On a 3 animateurs qui sillonnent tout le territoire du CITRAD pour réaliser des animations comme sur le gaspillage alimentaire, le compostage, le recyclage et bien d'autres. Et également, on travaille aussi à accompagner les entreprises aussi sur la réduction de leurs déchets, les administrations et les associations qui sont positionnées sur la thématique de la réduction des déchets. En ce qui concerne le PLPDMA, cet acronyme qui est difficile à prononcer, mais que j'ai eu l'habitude, puisque finalement, c'est mon identité, ça se définit en tant que programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. En fait, depuis que la prévention a été, on va dire, engagé en France à partir du programme national, du plan national de prévention des déchets, qui lui est décliné en plan régional. La loi, avec le décret de 2015, demande aux collectivités territoriales d'avoir elles-mêmes un programme local de prévention des déchets ménagers assimilés, c'est-à-dire de décliner les objectifs nationaux localement. Et le programme local de prévention des déchets ménagers, c'est simplement un plan de prévention des déchets, on va dire plus simplement. Et celui que le CITRAD, le premier que le CITRAD a mis en place, il est de 2020 à 2025, parce que généralement un programme, c'est sur 6 ans. Ça nous permet, ça nous donne le temps d'apprécier les actions mises en place et en même temps de quantifier le taux d'évitement, le taux de réduction des déchets. Donc 2020... Il est pratiquement, on va dire, à la fin, parce que 2025, c'est déjà là. Notre programme, pour faire un zoom, contient 5 axes. Il y a déjà le axe 1, c'est l'éco-exemplarité des administrations, entreprises et autres structures. Il y a en axe 2, la gestion des biodéchets à la source, donc le compostage dont a parlé ma collègue Laurine Vignon. En axe 3, on a la lutte contre le gaspillage alimentaire. On est en plein dans la thématique. En axe 4, on a l'éco-consommation, tout ce qui est éco-conception, tout ce qui est, par exemple, du stop pub pour réduire tout ce qui est déchets papier, tout ce qui est détournement de tissus et autres et tout. Et enfin, on a le réemploi en axe 5. donc qui est réemploi, donc réparation, réutilisation. Et ce sont ces cinq axes-là qui pilotent le PLPDMA, qui permet de réguler tout ce qui est réduction des déchets sur notre territoire. Voici, on peut présenter le CITRAD, voilà, et également le PLPDMA.
Mais merci donc pour cette présentation. Et on va peut-être demander maintenant à Vincent Jordon, qui est chargé de mission du plan alimentaire territorial à la communauté de communes, de faire un petit peu le même exercice avec son propre emploi et son propre acronyme. Qu'est-ce que le PAT, Vincent ?
Alors, le PAT, c'est le projet alimentaire territorial. Donc, il est développé à l'échelle du Royan-Vercors. Son objectif général, c'est de relocaliser le système alimentaire, c'est-à-dire de valoriser donc les productions locales et d'essayer de consommer ces productions en local. Tout ce travail-là a pour but, à l'avantage de dynamiser l'économie locale, donc de faire travailler un peu tous les acteurs économiques autour de l'alimentation au niveau local, de réduire les émissions de CO2 liées au transport des produits et d'aller sur des industries aussi qui consomment pas mal d'énergie. Et ça a aussi l'avantage de réduire les déchets, parce que quand on réduit les intermédiaires, on réduit du coup le transport et les moments de transformation, et donc on réduit à chaque fois les déchets à chaque étape.
Oui, la lutte contre le gaspillage alimentaire fait partie, j'imagine, des objectifs du PAT.
Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de réduire les déchets, alors notamment au niveau de la restauration scolaire, où là, du coup, il y a plusieurs communes qui sont regroupées pour faire un cahier des charges en commun. Et dans le cahier des charges, on demande aux prestataires qui livrent les repas, par exemple, d'utiliser uniquement des bacs inox pour livrer les repas et ne pas du tout utiliser des barquettes plastiques, ou simplement de bien calculer les quantités apportées aux enfants pour être sûr d'apporter la bonne quantité. Et aussi, il y a plusieurs solutions qui sont un peu développées dans différents restaurants scolaires, comme par exemple essayer de dire à l'enfant, enfin que l'enfant puisse lui-même se servir directement sa quantité de nourriture et pas qu'on lui serve à manger directement une quantité qu'il n'aurait pas envie de manger. Ce qui fait que l'enfant va moins jeter aussi parce qu'il se sert à hauteur de ce qu'il souhaite manger.
On évoquera un peu plus d'ailleurs cet aspect donc des cantines un peu plus loin dans cette table ronde. Je voulais également vous poser une question. Donc vous parliez de mettre en lien les différents acteurs de l'alimentation donc sur le territoire. Vous avez organisé récemment donc à la rentrée, je crois, une tablée solidaire, un petit peu avec cet objectif de mettre en lien, mais qui permettait aussi de limiter les pertes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, c'est ça. Globalement, sur le système alimentaire, quand on produit un aliment, il n'y a pas 100% du produit de la ferme qui est consommé, donc il y a forcément des pertes. Et ces pertes, si elles ne sont pas, comme on disait tout à l'heure, totalement dégradées, si on peut encore les consommer, ben il faut essayer de trouver un moyen de les valoriser, de permettre à certaines personnes de les consommer. Et donc, on a organisé cette tablée solidaire avec plusieurs partenaires du Royan-Vercors, qui étaient donc la Chambre d'agriculture, le Parc du Vercors, l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, des collectifs aussi d'habitants, pour voir quand on a une production sur une ferme en trop, ou qui n'est soit pas en vendue, soit pas commercialisable parce qu'elle rentre pas dans les bonnes cases, comment on peut récupérer ces produits pour les mettre à disposition des personnes qui en ont besoin dans les systèmes d'aide alimentaire. Et donc là, ce qui a été identifié dans cet atelier d'interconnaissance des acteurs et donc de travail aussi pour trouver des solutions, c'est que les producteurs, quand ils ont des productions qui ne sont pas commercialisables, soit qu'elles sont récoltées mais qu'elles ne peuvent pas être commercialisées, soit qu'elles ne sont pas récoltées par un manque de temps on sait déjà qu'il n'y aura pas les débouchés, et ben l'agriculteur peut appeler l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge ou les Restos du Cœur. Donc soit il se déplace directement pour venir récupérer la caisse de légumes ou la caisse de fruits, soit ils font appel au collectif Glanage, donc c'est plusieurs citoyens qui sont réunis et qui donnent un peu de leur temps bénévolement pour aller cueillir, ramasser des fruits et légumes sur les fermes et eux les ramener du coup à ce moment-là à l'épicerie solidaire ou au panier des Restos du Cœur.
Et derrière ces questions se pose aussi, j'imagine, la question de la qualité justement de l'alimentation qui est proposée aux associations d'aide alimentaire, parce qu'on parlait tout à l'heure des invendus de la grande distribution qui parfois ne sont pas de première qualité. C'est vrai qu'en allant faire appel à des producteurs locaux, on s'assure souvent que la qualité des produits soit meilleure.
C'est ça. Malheureusement, ce qu'on observe, c'est que dans l'aide alimentaire, c'est un peu la double peine. C'est non seulement on n'a pas les moyens des fois de s'alimenter en quantité, on n'a pas les moyens d'aller en grande surface et d'aller acheter tout ce qu'on veut. Et en plus de ça, on n'a pas forcément le choix de la qualité, ni même de ce qu'on veut acheter comme type de produit. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer d'améliorer ce qui existe aujourd'hui en termes de qualité, que les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter en quantité suffisante puissent essayer d'aller sur des produits aussi de meilleure qualité, des produits qui sont assez peu transformés, qui sont en direct des fermes et bio si possible.
Et est-ce qu'on en est pour l'instant encore au stade du projet, ou est-ce qu'il y a déjà des actions qui sont mises en place justement pour mettre en lien les producteurs et les associations d'aide alimentaire ?
Ouais, quelques des producteurs ont déjà participé à des dons alimentaires. Donc on leur a bien précisé d'ailleurs que ces dons, ils peuvent être soit soumis à une défiscalisation quand ils donnent, ou alors l'épicerie solidaire aussi a la capacité d'acheter à moindre coût aussi des produits alimentaires. Donc ça, il y a eu quelques initiatives comme ça de mener, mais effectivement, là, l'enjeu des prochains mois, ça va être de généraliser cette action, de bien faire connaître cette possibilité de donner ou de faire acheter à petit prix des produits agricoles à l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge ou au Resto du Cœur.
Donc s'il y a des producteurs, des productrices qui nous écoutent, qui écoutent cette émission, ils peuvent vous contacter pour éventuellement faire partie de ce projet.
Oui, c'est ça. Enfin, moi, autant qu'ils contactent directement du coup l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge, une communication sera faite prochainement. Et donc les Restos du Cœur, c'est deux personnes, deux bénévoles un peu responsables de chaque structure qui sont proposés pour être référents de ce système-là. Et voilà.
Sur le territoire donc du Royan Vercors.
C'est ça. Oui.
D'accord, et bien merci beaucoup donc pour cette présentation. Je voulais vous proposer maintenant un petit point sur les différentes associations qui luttent contre cette problématique du gaspillage alimentaire, les initiatives donc qui existent. Donc d'abord deux associations qui malheureusement n'ont pas pu être à nos côtés aujourd'hui, notamment parce qu'elles étaient mobilisées sur d'autres événements dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets. Alors dans le Royan Vercors spécifiquement, il y a la cantine solidaire du Royan qui a été créée en 2020 à Saint-Laurent en Royan à la fin du premier confinement en fait, avec pour objectif donc de proposer de la nourriture de qualité et un soutien aux personnes en difficulté, donc de lutter contre la précarité alimentaire dont on parlait. Et donc également de lutter contre le gaspillage. Donc cette association récupère des invendus et elle va organiser des repas collectifs gratuits, avec également pour but de développer du lien social en milieu rural. Également donc une autre association qui est active sur notre territoire, qui est basée un petit peu plus loin à Romans et qui est née en 2016. Donc ces activités s'articulent aussi autour de la mise en valeur des produits et des producteurs du territoire. Elle propose notamment des initiations aux méthodes de conservation végétale. Elle produit des bocaux au sein d'un camion cuisine qui se déplace donc pour les producteurs et les magasins. Et elle a donc pour objectif de rendre accessible l'alimentation de qualité en valorisant des fruits et légumes locaux, mais aussi donc de limiter le gaspillage alimentaire avec l'élaboration de conserves. On peut donner pour exemple un événement qui s'est déroulé en septembre au centre social La Paz à Saint-Jean. C'était l'événement « Ramène ta pomme ». Donc c'était de la presse et de la transformation de pommes donc, qui s'est déroulée sur le parking d'Active Royan à Saint-Jean pour transformer au lieu de jeter ses pommes. Et je crois que ça a été plutôt un succès. Et enfin, un autre projet à évoquer donc, sur le thème de l'alimentation et de la lutte contre le gaspillage. C'est un projet qui est porté par le collectif Courbouillon et que je crois vous pouvez peut-être nous présenter, Vincent, donc, de la CCRV.
Oui, c'est ça. Alors le collectif Courbouillon, c'est même une association là pour le coup. C'est une association qui avait porté le projet de Halle Nourricière à Saint-Marcelin, où il y avait un local qui pouvait être investi en magasin coopératif. Bon, ils n'ont pas été retenus et maintenant ils essayent de se développer du coup sur la communauté de communes de Saint-Marcelin, mais aussi celle du Royan-Vercors. Et l'association est au siège maintenant au centre social La Paz à Saint-Jean-Royan. Et donc cette association, elle a pour objectif de travailler sur les sujets de la démocratie alimentaire, c'est-à-dire de comment on redonne le pouvoir aux gens, ou en tout cas la possibilité de réfléchir leur alimentation, et comment on peut réfléchir tous ensemble à améliorer son alimentation et surtout permettre, comme je disais tout à l'heure, de rendre une alimentation de qualité accessible à tous. Voilà, donc c'est un peu les sujets de travail, et autour de ces sujets, du coup, ils développent un consortium d'acteurs et de citoyens qui travaillent ensemble pour mener des expérimentations, des essais. Et donc là, ils sont beaucoup en lien, notamment avec la ferme de la Clé des Sables à Saint-Lathier et la ferme des Roussets à Saint-Jean-Royan, du coup, pour travailler sur des expérimentations type des marchés trois prix et d'autres expés aussi sur des caisses locales, c'est-à-dire que chacun arrive pour mettre des sous dans une caisse, et ensuite à hauteur de ce qu'il peut, et ensuite l'argent est redistribué pour que tout le monde ait les mêmes moyens pour acheter des produits dans des produits locaux et de qualité.
Ça s'appelle, je crois, la sécurité sociale, le projet de sécurité sociale de l'alimentation.
C'est ça, l'idée finale, c'est ça.
Et on parlait notamment de l'initiative des marchés à tarifs différenciés. Ça vient d'être testé du côté de la ferme des Roussets. Peut-être que Nicolas Formé peut nous faire un petit retour sur cette première expérience.
Oui, du coup, je peux peut-être déjà présenter la ferme en deux mots pour le contexte. Du coup, la ferme des Roussets, c'est une ferme collective à Saint-Jean-Royan. Ferme collective parce qu'il y a plusieurs structures. Il y a trois structures économiques. Il y a un ânier qui fait des balades en âne. Il y a un apiculteur et une structure dont je fais partie, qui est le GAEC des Roussets, où on est quatre associés, bientôt cinq, sur double activité principale, c'est maraîchage, donc diversifié. On produit des légumes toute l'année. Et puis un atelier de céréales transformation pain, céréales, farine et pain, quoi. Le produit fini. Et effectivement, on a testé le prix différencié sur le marché. Donc c'était un premier essai hier. Du coup, on avait aussi des personnes qui étaient là pour parler un peu de ce projet-là, parce que du coup, ça s'inscrit dans le projet de la sécurité sociale de l'alimentation, qui a un volet de solidarité, mais aussi un volet de démocratie, justement, où inviter les personnes à se réapproprier l'alimentation, de quels produits ils veulent manger, etc., de quelle manière cette nourriture est produite. Et du coup, le marché à prix différencié, ça gère que la partie solidarité, où du coup on a le prix classique qui était jusque-là appliqué, qui est le prix blanc, qui est le prix on paye, enfin voilà. Et après, il y a deux autres prix. Il y a un prix orange qui est, enfin c'est comme ça qu'on l'a appelé, qui est un prix avec 10% de plus, qui va permettre à des gens qui ont peut-être des budgets inférieurs de payer un prix mauve qui est un prix avec moins 20%. Voilà, donc c'est une solidarité qui est faite au niveau du marché. Et à terme, si le projet de sécurité sociale de l'alimentation se fait, ça sera une caisse locale qui reçoit des cotisations et qui répartit ensuite l'argent. Et donc il n'y aura plus de prix différenciés sur le marché en l'occurrence, quoi.
Et donc pour ces trois fourchettes de prix, c'est chaque personne qui, en son âme et conscience, décide « moi je paye tel prix aujourd'hui ».
Oui, c'est un choix. Il n'y a pas du tout de notion de coefficient familial ou de revenu à montrer, de justificatif à présenter. C'est vraiment sur le moment, et ça peut être aussi variable d'une semaine sur l'autre. En fait, on a... Enfin voilà, en fonction de la fin du mois, le début du mois, ça peut être aussi différent. Des aléas de la vie fait qu'un jour on peut, un jour on peut pas, et voilà. Nous, en tant que producteurs, on encaisse entre guillemets l'argent supplémentaire s'il y en a, et va se poser la question. Là, c'est pour ça qu'on est vraiment au début de l'expérimentation. C'est si un marché parce que du coup il y a la Clé des Sables, donc fait aussi ces prix différenciés depuis plus longtemps que nous d'ailleurs. Et du coup, si un marché est excédentaire, peut-être qu'il va permettre de de renflouer entre guillemets d'autres marchés qui sont déficitaires, parce que le, enfin l'idée quand même c'est pas que les producteurs et productrices perdent de l'argent s'ils sont dans un contexte économique local où les gens préfèrent payer le prix mauve que le prix orange voilà. Et donc ça va se mettre en place, et c'est pour ça que c'est une notion qui est à une échelle d'un territoire ou d'une échelle nationale, mais voilà, ça doit se construire quoi.
Et est-ce que ça a plutôt bien fonctionné hier? Les gens ont semblé jouer le jeu?
Oui, ben du coup, on avait un peu communiqué, mais assez peu. Enfin, puis du coup, on a une clientèle aussi d'habitués qui vont pas forcément regarder les panneaux sur ce qui se passe à la ferme. Donc, y avait une personne qui était là pour expliquer, mais globalement, il y a quand même des gens qui ont été, qui n'étaient pas forcément au fait de l'action et de ce projet-là. Donc, ça va s'inscrire aussi sur du moyen terme, mais en tout cas. Oui, il y a des gens qui ont été réceptifs, ont tout de suite compris le jeu, entre guillemets, parce que du coup, on demandait de quelle couleur voulez-vous payer votre produit, quoi. C'est donc avec les trois couleurs que j'ai présentées, le blanc, le mauve et l'orange. Et donc, ça fait une question un peu bizarre, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quand on achète quelque chose. Voilà, mais voilà, ça va se développer. Et du coup, ce qu'on espère, c'est que du coup, cette démarche soit. Se fasse entendre, enfin, que le bouche à oreille fonctionne et qu'on puisse toucher des gens qui, jusqu'à maintenant, ne seraient pas venus à la ferme pour dire, ah, c'est des produits bio, c'est probablement un peu plus cher que ce que je peux trouver ailleurs. Et on espère aussi pouvoir, on verra si l'action marche, si justement on arrive à avoir une diversité de personnes qui seraient pas venues jusqu'à maintenant, quoi.
Donc voilà pour l'un des aspects donc sur lesquels travaille l'association Le Courbouillon. Il y a donc un autre aspect qui est celui du projet de glanage qui est encadré donc en fait par Vanessa Lebri, qui est animatrice développement social local au centre social La Paz et donc qui travaille sur différents aspects. Elle m'a envoyé une petite présentation donc de ce projet de glanage. Elle me dit donc que l'idée est de mobiliser des habitants, des structures alimentaires et des producteurs afin d'imaginer un partenariat et de structurer donc un projet de ramasse et de distribution, mais aussi de soutenir les agriculteurs. Il est également question de mettre en lien les consommateurs et les producteurs, mais aussi de permettre à tous de manger des produits frais, locaux et de qualité. Et donc elle fait le lien avec le gaspillage, donc, puisque bien sûr les ramasses permettent de faire en sorte que des produits qui ne seraient pas ramassés par manque de temps, par exemple, par le fait que le matériel soit en panne ou simplement qu'il y ait des surplus. Donc ça permet à donc ces produits d'être consommés quand même. Et elle nous dit donc si des personnes sont intéressées pour intégrer donc un groupe de travail sur le sujet et venir construire ce projet donc de glanage, n'hésitez pas à la contacter. Donc je vous donne son mail, c'est laep.habitant@cslapaz.fr. Et donc il faut contacter Vanessa Lebri. Est-ce qu'on peut-être terminer donc cet aspect association initiative donc contre le gaspillage en évoquant peut-être d'autres actions de la communauté de communes donc qui visent plus largement à sensibiliser les jeunes, je crois, à la question de l'alimentation via différentes structures?
Oui, c'est ça. Dans le cadre du projet alimentaire territorial, il y a trois axes. Et on a le premier axe production, l'axe commercialisation, on met en lien les professionnels. Et donc le troisième axe où on est sur de la sensibilisation, accompagnement à consommer une alimentation locale et de qualité. Et pour ces actions, du coup, on fonctionne beaucoup avec les deux espaces de vie sociaux du territoire, Active Royan et Vertapop, ainsi que le centre social La Paz. Et donc à eux trois, ils vont organiser tout un tas d'ateliers de cuisine, des conférences, des ciné-débats, enfin voilà, plein des sorties ou même des séjours pour les jeunes. Et donc à destination que ce soit des jeunes, du grand public, des seniors, ils vont essayer par tous ces moyens, donc ces événements ponctuels ou au quotidien, d'expliquer, de faire comprendre aux gens de comment ça fonctionne l'alimentation, pourquoi c'est important d'aller en local et consommer une alimentation de qualité qui est bonne pour la santé. Et donc voilà, l'objectif c'est de faire passer le message que derrière c'est un peu un pouvoir, enfin de décider son alimentation, ça a pas que un impact sur soi-même, ça a aussi un impact voilà sur le producteur qui est à la base, qui est donc mieux valorisé, mieux rémunéré, et ça a, voilà, globalement un impact aussi environnemental. Quand on consomme local, on consomme du coup avec moins d'émissions de CO2 parce qu'on réduit les intermédiaires et les transformations.
Eh bien, merci donc pour la présentation de ces actions, donc à destination plutôt des jeunes. On va passer maintenant à un autre point dans cette table ronde, le point de vue des producteurs maintenant, puisqu'on a la chance d'avoir deux producteurs avec nous. Donc Nicolas Formé, qu'on a pu entendre déjà, qui est paysan boulanger à la ferme des Roussets à Saint-Jean, et également Bastien Faure, donc qui est notamment producteur pour le Champ des Gamelles, donc à Écheville. Donc on a eu déjà une petite présentation de la ferme des Roussets. Est-ce qu'on peut présenter, est-ce que Bastien, vous pouvez nous présenter le Champ des Gamelles?
Ouais. Alors, le Champ des Gamelles, c'est une exploitation qu'on a lancée en 2016. On s'est installé en 2020 à Écheville dans une ferme avec Émilie et Thomas. Et l'idée de base, en fait, c'est de produire ce qui allait nous servir à faire à manger. Alors, on me présente comme producteur. Là, aujourd'hui, je suis pas tellement producteur. Moi, je fais partie du projet, mais du coup, sur la partie plutôt transformation. Je suis plutôt en cuisine. Parce que je bosse aussi avec la boulangerie Jacopin, comme tu le disais tout à l'heure, où on fait de la restauration. On peut justement dire que le projet du Champ des Gamelles, c'est un peu une continuité de ce qui s'est passé pendant 30 ans à la boulangerie Jacopin. La boulangerie Jacopin, ça a été monté par mes parents dans les années 90. Et du coup, très vite, ils se sont orientés vers le fait de faire de la boulangerie en utilisant des produits qui sont locaux, qui sont bio, pour valoriser notre territoire et proposer une alimentation de qualité. Nous, avec le Champ des Gamelles, on a poussé le curseur un peu plus loin en disant, en plus de faire travailler des gens qui sont des acteurs locaux, on veut, nous aussi, prendre notre part dans ce délire-là. Et donc, il y a Émilie qui fait du maraîchage, il y a Thomas qui fait de l'élevage et qui s'occupe aussi de nos fruitiers. Donc on fait des légumes, on fait des fruits, on fait de la volaille, on fait du cochon, on fait des moutons. Donc on a vraiment une ferme diversifiée. Ce qui nous permet d'ailleurs d'être un peu plus résilients quand on a des problèmes sur un atelier. C'est pas grave, on a un autre atelier, ça peut marcher et tout ça. On essaye de fonctionner dans cette dynamique. Et du coup, tout ça, alors aujourd'hui, on a commencé en faisant ça en fait sur les festivals, nous avec le Champ des Gamelles. Et puis petit à petit, ensuite, on s'est orienté sur le traiteur. Et maintenant, on fait du traiteur et on fait aussi de la cuisine au restaurant, à la boulangerie Jacopin. Donc, nous, ce qu'on fait en production, ça va être injecté dans la boulangerie, et autant on essaye aussi de réfléchir à la boulangerie et au restaurant à comment on peut aussi valoriser nos déchets. C'est-à-dire que, par exemple, vous parlez de compostage depuis tout à l'heure, ou de revaloriser en donnant à manger aux animaux avec ce qu'on a acheté. Bah, tout ça, nous, c'est des choses qu'on a mis en place. Ça repart à la ferme. Les déchets qui vont être produits par le restaurant, les déchets en pain sur la boulangerie aujourd'hui, maintenant aussi, on a acheté un crumbler. C'est-à-dire un crumbler, c'est pour broyer du pain sec. Et sec ou pas sec d'ailleurs, en vrai, hein, c'est juste le pain que t'as pas vendu, qui est de l'avant-veille. Parce que nous, on vend aussi le pain de la veille, on vend le pain du jour, on vend le pain de la veille, parce qu'on fait du pain qui se conserve. Parce qu'on utilise des produits de bonne qualité, parce qu'on cuit au four à bois, parce qu'on fait du pain au levain.
Ce qui permet aussi de limiter le gaspillage, on en parlait tout à l'heure.
Exactement, avoir un pain qui se conserve pendant une semaine, c'est pas la même qu'une baguette qu'on va garder pour la journée. Ce qu'on va avoir crumblé, avec le pain, ça va soit nous servir pour être réinjecté directement dans la boulangerie pour le remettre dans des recettes, à la cuisine aussi. Ça va nous servir, par exemple, pour faire aussi des gomasio. Des choses comme ça. Bon, alors gomasio, c'est avec le sésame, mais c'est pour avoir l'idée un peu dans l'esprit, quoi. Et ça peut, c'est aussi remis en grain pour que nous aussi, on en donne une partie derrière à nos bêtes. Bon, en théorie, on n'a pas trop le droit de faire ça. C'est pas très légal, mais c'est pas grave, on est militants. Ok. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Du coup, ouais, moi, je sais que sur ma partie, plus spécifiquement en cuisine, puisqu'on parle des déchets, il y a aussi un autre aspect, il y a l'aspect énergétique, comme je parlais un petit peu tout à l'heure avec toi. C'est-à-dire que nous, la boulangerie, elle marche avec un four à pain. Le four à pain, il fait 80 tonnes. C'est une masse énorme qui est à chauffer. Ça demande énormément d'énergie à chauffer et à rester chaud toute la semaine pour pouvoir faire du pain. Et du coup, quand on a monté le restaurant, on s'est dit, putain, quand même, ce serait pas mal qu'on puisse utiliser cette énergie qui est là, qui va servir pour faire le pain pendant les 3 heures de cuisson qu'il va y avoir par jour. Et qu'est-ce qu'on fait des 21 heures qui restent derrière? Du coup, tout de suite, on s'est orienté à faire la cuisine dans ce four à pain. Donc ça fait que moi le matin quand j'arrive, les cuisons sont faites la veille, j'ai un four qui est un peu moins chaud, mais ça m'empêche pas de faire des plats mijotés. Ça m'empêche pas d'aller par exemple au-dessus du four à pain et d'aller gratter dans le sable parce que le four est isolé avec du sable. Et du coup, je creuse des trous dans le sable et je fais des cuissons longues de viande ou de légumes directement dans le sable du four à pain, indépendamment du coup qu'il y ait une chauffe ou pas, qui soit faite pour le pain. Je peux faire des cuissons de 48 heures comme ça. Je me suis même amusé à faire des cuissons pendant qu'on est en train de chauffer le four à pain dans le four à pain, en m'inspirant de recettes anglaises où ils font un peu, on peut dire, cramer la viande là, et puis en fait tu viens, alors là tu fais un peu du déchet parce que t'enlèves un peu de la viande cramée, mais par contre ce qui est dedans c'est super bon, c'est un goût un peu charbonné qui est assez excellent. Et du coup ouais, voilà, on est en déchet qu'on, même dans ce qu'on produit, c'est-à-dire que quand je fais la cuisine, j'essaye vraiment d'avoir un minimum de pertes sur mes légumes. L'idée, c'est que, par exemple, même quand on fait des... Ben, un exemple très bien, par exemple, les petits pois. Je récolte mes petits pois. J'ai mes petits pois, hop, je les décosse, là, et je récupère mes petits pois, et je fais quoi d'écosse? Ou pour les fèves, ça marche aussi. Mes fèves, quand elles sont fraîches, ça va, je peux les utiliser direct, je peux les cuisiner. Mais l'écosse des petits pois, c'est dur, et c'est pas terrible, terrible à manger. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux les passer à l'eau, au bouillon, les faire cuire, les mixer, les chinoiser, et me faire un velouté avec ça. Et ça, du coup, ensuite, je peux le resservir au restaurant. Ça fait que je vais toujours avoir du déchet de fibre, hein, parce qu'il va me rester de la fibre, mais par contre, c'est minime par rapport à la quantité de petits pois que je vais avoir à trier, quoi. Des choses comme ça.
Il s'agit en fait de s'adapter, de penser ses menus, si je comprends bien, en fonction du zéro gaspillage, enfin de limiter le gaspillage et la consommation d'énergie.
Bien sûr, ne serait-ce que par rapport au coût. On en parlait, vous parlez de la rémunération des paysans qui produisent et qui doivent être rémunérés à la juste valeur de leur travail. Mais du coup, moi, quand je travaille avec d'autres producteurs, je le paye, ça aussi. Et du coup, si à un moment donné, si on veut juste parler rentabilité, le fait d'avoir moins de déchets, moi, ça me permet d'économiser de l'argent. Et donc, du coup, après, il faut réussir à être un petit peu ingénieux, je mets ce terme entre guillemets, quoi, pour essayer de limiter ces déchets-là et valoriser au maximum le produit qu'on va avoir.
Et alors, ça marche parce que donc vous avez à la fois l'aspect producteur avec la ferme et l'aspect restaurateur, donc avec Jacopin. Du côté de la ferme des Roussets, donc plus sur l'aspect producteur, comment ça se passe donc au niveau des pertes alimentaires? Est-ce que vous en avez beaucoup déjà et comment vous faites donc pour les limiter?
Du coup, je peux faire un peu de différence entre les deux activités, maraîchage et céréales pain. Côté maraîchage, du coup, ça va être déjà le système de vente, de commercialisation va faciliter pour nous la démarche parce que on est donc en vente directe. On peut déjà faire facilement donc on a parlé tout à l'heure des légumes déclassés, des légumes qui ont une apparence qui peuvent.
Et on peut d'ailleurs peut-être donner les horaires des marchés à la ferme,
si on veut se rendre à la ferme. C'est principalement le vendredi, enfin principalement parce que c'est une grosse vente où il y a d'autres producteurs, productrices qui viennent. C'est le vendredi de 16h30 à 18h30. Et après, on a aussi une fournée le mardi, donc on fait une petite vente 17h, 18h15 le mardi, où il y a aussi les légumes. Et le mercredi matin, au jardin directement, sur la belle saison, donc mai-octobre, on va dire. Je parlais des légumes déclassés. Quand on fait de la vente directe, on n'a pas d'intermédiaire, donc on est directement en contact avec les personnes qui achètent nos produits, et donc on peut très bien, mettre en exposition des légumes qui ont des formes un peu bizarres, mais qui demandent peut-être un peu plus de temps, des fois de préparation, d'épluchage et tout ça, mais qui sont très bons. Par ailleurs, on peut aussi se faire une caisse de déclassés vraiment qui sont un peu abîmés, mais qui en fait en parce que des fois des rongeurs, enfin des campagnols par exemple, ça peut manger une partie de la racine de la carotte, mais en fait on coupe la partie et puis elle est consommable, mais elle est pas vendable entre guillemets, donc on peut faire des caisses comme ça de déclassés à moindre coût. On a aussi le système de vente par panier qui représente à peu près la moitié de notre volume de vente de légumes. Et du coup, l'intérêt des paniers, c'est que c'est nous, les producteurs, qui choisissons en fonction déjà de la saison, forcément, de ce qu'il y a dans nos champs, mais aussi en fonction de la quantité qu'on produit. On va orienter dans le panier plus ou moins tel légume parce qu'on en a en beaucoup de quantité. Donc il y a moins de pertes déjà liées à ça. Et puis voilà, donc ça peut être vécu par le consommateur comme une contrainte entre guillemets d'avoir parfois un peu toujours les mêmes légumes et tout ça, mais c'est déjà ce qui est produit. Et puis c'est aussi ce qui nous arrange, donc c'est quand même un partenariat, les paniers, entre le producteur et le consommateur, quoi. Par rapport à la et après du coup un peu sur la même idée qu'a développé Bastien, c'est les carottes, quand on achète des carottes bottes et qu'il y a des fans, en fait on peut faire un pesto de fans de carottes, c'est très bon, faire des soupes avec les fans des radis, des carottes, donc ouais, ça c'est des choses qui pour l'instant nous on fait pas de transformation à destination de la vente parce qu'on n'est pas équipé, mais c'est en projet à la ferme d'avoir un atelier de transfo ou peut-être de faire venir la conserverie mobile pour justement un peu plus faire de transfo de ces choses-là et qui permettront d'avoir des produits supplémentaires. Mais en tout cas, on en parle aux gens et des fois, les gens sont surpris de dire « Ah ouais, j'ai testé la pesto de fan de carottes et c'est très bon. » Et voilà. Côté céréales, du coup, le fait... Donc là, il y a le volet gaspillage alimentaire, mais aussi le volet gaspillage... Enfin, par rapport au zéro déchet, qui est quand même à signaler, où du coup, nous, on est vraiment une... On fait du bout au bout, quoi. Enfin, on fait du début à la fin sur la production de pain. On commence par le blé, on le sème, c'est nos céréales. Donc, en fait, on prend dans nos silos et on n'achète pas de semences. Donc, il y a pas de sac. Après, la farine, elle est produite sur place et on passe une porte et on arrive au fournil. Le sac, il retourne après pour refaire de la farine. Enfin, du coup, il y a quand même le fait, on l'a évoqué tout à l'heure, plus il y a d'intermédiaires, de distributeurs, etc., plus il y a du packaging, enfin j'en sais rien, des emballages et tout. Donc nous, on réduit déjà ça. Et après, sur l'aspect gaspillage alimentaire, tout ce qui est déchets de tri, à la récolte, on trie les céréales pour éviter des maladies ou des problèmes de comment on appelle ça, de ravageurs. Du coup, on enlève tout ce qui est grains cassés et tout ça pour le stockage. Donc tout ça, ça part aussi à un petit atelier poule pondeuse qu'on a mis en place il y a quelques années, une centaine de poules. Et voilà, ça valorise déjà un peu les déchets de tri. Et puis sur le pain, voilà, c'est pareil que Jacques Aupin. On est sur du pain au levain naturel, donc qui se garde longtemps. Donc il y a déjà moins cet aspect-là. Et quand on est paysan boulanger, souvent c'est une, deux, trois fournées par semaine. Enfin nous, on est sur deux, mais enfin, je dis dans la généralité des personnes qui font ce métier-là, on n'est pas du tout sur les volumes de vente d'une boulangerie classique. On est sur nous, personnellement, 220 kilos de pain par semaine. Et donc du coup, on a deux créneaux de vente assez courts où du coup tout le monde vient et on a beaucoup de commandes et du coup voilà, on arrive assez facilement à gérer le volume de production et c'est rare qu'à la fin du marché où alors il y a souvent des gens qui n'ont pas leur pain parce qu'on n'avait pas eu assez que du surplus et voilà, et le peu de pain qu'on a en trop, on le congèle et puis on le passe dans le collectif à la ferme où on mange tous les midis ensemble. Voilà, un peu.
Oui, donc le gaspillage, c'est un aspect qui me semble très important pour vous deux, à la fois, j'imagine, pour l'aspect écologique, mais aussi pour l'aspect économique, de ne pas perdre d'argent en jetant, en gâchant comme ça des aliments. Oui.
Et puis, fonctionner de saison, tu parlais de faire des paniers. Moi, j'ai commencé à apprendre la cuisine en fonctionnant avec des paniers qui venaient de la ferme. Et du coup, quand on fait de la restauration avec ça, et qu'on a de la courge pendant 3 mois, C'est un exemple pour moi qui est très concret, parce qu'au début c'était une sacrée prise de tête de se dire mais comment je vais cuisiner cette courge encore différemment, comment je vais trouver une nouvelle recette pour faire quelque chose. Mais du coup on arrive à trouver des trucs assez dingos, comme par exemple là en ce moment je fais de la bûche à la courge. Une bûche pour manger en dessert avec de la courge, crème au beurre à la courge, un petit appli au citron dedans. Et ça, c'est un truc que j'aurais jamais trouvé si à un moment donné, je m'étais pas retrouvé aussi à consommer des produits de saison avec des gens qui m'imposent en me disant c'est ça qu'il y a à manger et débrouille-toi gentiment, hein, je dis hein, ça, hein, mais débrouille-toi avec ça pour faire un truc et trouve des nouvelles idées, quoi.
Ça stimule la créativité en cuisine.
Exactement.
C'est le bon côté. Et donc peut-être une dernière question du côté donc des producteurs. Quand parfois l'un de vous a un petit peu trop justement de courge dans sa production, ou au contraire qu'il lui manque des choses pour remplir ses paniers, est-ce qu'il existe parfois une solidarité entre les producteurs qui vont communiquer et éventuellement échanger certains produits?
Alors, pour ce qui est du champ des gamelles, quand on faisait les festivals avant, pour nous c'était très facile ça, parce que dès qu'il y avait nous on s'est retrouvé à aller faire des festivals où on faisait des services de 1000 couverts. Donc du coup on part sur des échelles où à un moment donné, il faut pas se leurrer, nous au début quand on a commencé avec le champ des gamelles, on n'avait pas du tout la capacité de production. Et du coup justement, on était un peu dans ce délire là d'aller voir tous les copains qui sont maraîchers à côté. Parce qu'on faisait que du végétarien quand on partait en festival. Et donc du coup, justement, on misait là-dessus sur les surplus qu'ils pouvaient avoir en production. Et du coup, on embarquait leurs surplus. On embarquait les légumes, comme tu disais tout à l'heure, Nico, qui sont peut-être moins beaux pour la vente, que les magasins veulent pas et tout ça. Nous, ça changeait absolument rien de toute façon pour faire la cuisine avec. Donc, avec le champ des gamelles, c'est un peu comme ça qu'on a réussi aussi au début un peu à compléter la production qui nous manquait pour aller faire des services aussi conséquents, quoi. Voilà. Toujours quand même aller faire des services gros comme ça, mais en ayant le moins de déchets possible. Je veux dire, quand je vois, moi je suis monté à Paris pour aller faire les festivals du Solidays, quand je vois la quantité de déchets qui étaient produites par les autres restaurateurs par rapport à ce que nous on sortait, pour vous donner une idée, quand on fait des services de 1000 personnes, nous on sortait un bidon de 50 litres max de déchets alimentaires, quand les autres nous en sortaient une quantité astronomique, quoi. C'est incomparable. On parle de, eux, ils avaient carrément des bennes, quoi. Des bennes entières. Et je parle pas de ce que les gens finissaient pas dans leurs assiettes, quoi.
Et ça me permet de faire une transition donc avec l'aspect plus gaspillage du côté de la restauration collective, donc qu'il s'agisse à la fois de restauration scolaire qu'on a un petit peu évoqué tout à l'heure, ou de restauration commercial. Donc les pertes sont 4 fois plus importantes que lors d'un repas à la maison. Il s'agit donc d'un enjeu important, et c'est le cas notamment parce que je pense que les contraintes sont plus élevées, c'est plus difficile éventuellement d'ajuster les portions aux particularités de chaque individu. C'est pas toujours possible de conserver ce qui n'a pas été mangé ou de ce qui reste en cuisine. Peut-être un point d'abord sur la restauration scolaire. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure, Vincent, donc de la CCRV, avec les exemples de Saint-Nazaire et Saint-Thomas. Est-ce qu'on peut peut-être détailler un petit peu plus, ou quel a été le travail fait donc dans ces cantines sur cette question du gaspillage?
Oui, bah c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, effectivement, où on ajuste vraiment les quantités pour les enfants, et on laisse les enfants plutôt se servir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je demande aux personnes qui gèrent les restaurants scolaires, est-ce que vous avez du gaspillage? On me dit il y a pas de gaspillage. Alors ils m'ont donné quelques chiffres, et effectivement à chaque fois par repas, quand il y a une dizaine, une trentaine d'enfants, il y a maximum 100-150 grammes de déchets alimentaires jetés. Donc voilà, c'est un peu le poids d'une grosse pomme, quoi, sur l'ensemble du restaurant scolaire. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc voilà, après il faut toujours bien présenter les plats, calculer la bonne quantité, puis laisser les enfants se servir aussi comme ils le souhaitent.
Voilà, donc des avancées du côté des cantines, ça a l'air de bien fonctionner. Côté restauration commerciale, donc pareil, on a pas mal abordé le sujet déjà avec Bastien de Jacopin. Peut-être qu'on peut développer un peu plus cet aspect donc en cuisine, comment limiter le gaspillage, peut-être en concevant ces menus, peut-être de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de choses proposées à la carte, par exemple.
Ouais, alors... Autant avant, on était un peu plus sur un menu unique, par exemple, sur le restaurant. Autant maintenant, on a un peu plus diversifié, mais parce qu'on s'est mieux organisé. C'est-à-dire qu'on arrive à plus anticiper, en fait, de faire de la transfo qu'on va garder, par exemple, pendant 3 semaines. C'est-à-dire que moi, je vais arriver, je vais recevoir mes 10 poulets. Bon, mes 10 poulets, je vais pas les passer dans un service. Par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est que moi, je vais pouvoir les cuisiner, les détailler et les passer en cellules de surgélation pour pouvoir les conserver au congélateur après et puis les sortir, en fait, au compte-gouttes. Et maintenant, j'essaye de fonctionner un petit peu plus comme ça, mais ça peut aussi marcher en faisant sécher des produits. Ça marche aussi en ayant des produits qui sont lactofermentés. Maintenant, j'utilise aussi pas mal ça, notamment par exemple pour faire des steaks végé, parce qu'on propose par exemple du snack à la boulangerie. Et donc du coup, c'est pas mal d'avoir des légumes lactofermentés pour préparer mes galettes végétales. Ça m'évite d'avoir aussi des légumes frais à utiliser et à devoir couper tous les jours, parce que j'ai mon stock de lactofermentés que j'ouvre et je mets directement dedans, ça va plus vite. T'es obligé de faire un peu au compte-goutte. Mais c'est qu'une histoire d'organisation, quoi. C'est vraiment le cœur du truc. Il faut toujours réfléchir à se dire, je vais recevoir un produit, combien de temps je peux le garder en frais, une fois que je l'ai cuisiné, combien de temps je peux le garder une fois qu'il est cuisiné. Si j'ai pas réussi à le passer une fois qu'il est cuisiné, est-ce que je vais pouvoir le réinjecter dans autre chose, par exemple? Parce que, par exemple, ma volaille, pour revenir, par exemple, voilà, je l'ai congelée, détaillée, déjà cuite, je la sors au fur et à mesure, je la sers. On arrive, on est fin de semaine, je vois que j'en ai sorti un peu trop et je vais pas pouvoir y passer. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Peut-être que je vais pouvoir le recuisiner, le retransformer, le refaire en raviolis par exemple et proposer des raviolis après avec. Alors il faut que je le recuisine, il faut que je le retravaille parce que sinon j'ai pas le droit de le remettre au congélateur après, hein, bien évidemment, parce que ça c'est des normes et tout ça en cuisine et tout. Mais par contre, du coup, je peux le retravailler. Donc ça veut dire qu'au début, quand je vais cuisiner mon poulet, direct d'entrée de jeu, je vais le cuisiner de manière assez simple. Je vais faire un poulet rôti que je vais pouvoir proposer au début au restaurant. Et puis, si ça matche pas, ok, je dépiote tout mon poulet rôti. Je les filoche, je le reprépare en sauce, machin, je le rebalance en four, je le refais mijoter, je le sors, et là, hop, je prends ma pâte à ravioli, je fais mes ravioli, et mes ravioli, ils peuvent repartir au congélateur. Y a pas de problème, ensuite je peux les resservir et tout. Du coup, on essaye de s'organiser comme ça. Ça, c'est quand on fait de la cuisine, où on fait un peu où on a des petites quantités. Parce que quand on fait, du coup, moi, j'ai pas fait de restaurant collectif, pour les écoles et tout ça. Par contre, comme je disais, j'ai fait de la cuisine pour 1000 personnes. Ça, c'est toute une orga à avoir quand tu fais un service comme ça, où il faut réussir à jauger. Parce je peux parler de ça, par exemple. C'est que quand on s'est retrouvé en festival, à un moment donné, nous, on est arrivé en festival, on louait des camions frigo, on arrivait avec des congélateurs, on se mettait tout pour respecter les normes monstrueuses qui sont par rapport à la cuisine. Et en fait, à un moment donné, tout ça, ça a un coût qui est un peu monstre. Et on s'est dit, c'est pas possible, on pourra pas l'assumer. Et puis en fait, techniquement, c'est super chiant aussi à préparer et tout ça. Donc du coup, on s'est retrouvé à aller en festival et on a viré le camion frigo. On a viré le camion frigo, on a juste gardé un tout petit congélateur et on a récupéré des glacières. Et donc du coup, ce qui fait que après quand on arrivait et qu'on faisait notre service, on avait un congélateur avec des bacs de bidons d'eau congelée qu'on pouvait en plastique alimentaire nettoyer, désinfecter, qu'on pouvait réenvoyer directement dans nos gamelles en fin de service si jamais on se retrouvait avec une gamelle qu'il faut qu'on refroidisse et qu'on puisse conserver. Mais l'idée, c'était quand même de pouvoir produire tout au fur et à mesure, parce qu'on là on est sur un service qui va durer pendant 6 heures à peu près. Et donc l'idée, c'est quand t'arrives dans les deux dernières heures, il faut toujours réussir à jauger, ok, là, je sais pas combien de personnes je vais faire. Donc, du coup, je fais toujours au minimum. Je vais envoyer 30 personnes par 30 personnes en termes de préparation. Mes légumes que j'ai tout découpés qui vont me servir à faire ça, vu que j'ai pas de frigo pour les conserver, ça veut dire qu'il faut que je les coupe plutôt au dernier moment. Et vu qu'une fois qu'ils sont coupés, en théorie, soit je les mets au frigo, soit je les passe au sel, et ben, je les passe au sel. J'ai pas besoin de ressaler mon plat derrière. C'est vraiment une histoire d'organisation, en fait, pour réussir à limiter un maximum l'énergie que je vais utiliser pour bosser. Et puis, ça me permet aussi de limiter aussi les pertes un maximum sur la cuisine derrière. Enfin, une fois qu'on a fini notre service, l'idée, c'est de finir. On n'a rien. On n'a plus rien qui a été transformé. Et ouais, ça, il faut être dessus et il faut l'apprendre. C'est de l'organisation. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation. Et on a l'impression que c'est un peu compliqué. Je pense que c'est un peu compliqué, peut-être un peu à apprendre, mais pour un service de 1000 personnes, enfin, je veux dire, c'est normal que ce soit un peu compliqué à apprendre. Moi, ça m'a pris du temps à comprendre ça. Mais quand on est à la maison, on peut, pour 4, 5, 6 personnes, ça dépend du foyer, quoi, tu vois. Ça reste vachement abordable, je pense.
Eh bien, la transition est parfaite, donc, vers le côté, donc, organisation et réflexion, donc, qu'il y a derrière la lutte contre le gaspillage alimentaire, mais cette fois-ci, donc, au niveau individuel, puisqu'on va parler pour terminer des trucs et astuces pour gaspiller moins, donc, chacun à son niveau chez soi. Quels sont les gestes à adopter dans son quotidien? Je vous propose d'abord d'écouter une interview qui a été réalisée au studio de Radio Royan. C'est l'interview de Dany Niro, qui est gérante de la Biocop à Saint-Jean-en-Royan et qui partage justement ses trucs et astuces pour gaspiller moins, et qui revient sur les actions aussi qu'elle a mises en place dans son magasin. On écoute ça et ensuite ce sera donc le moment donc de parler un petit peu plus des trucs et astuces et ensuite de poser vos questions si vous en avez à nos invités. Nous parlons ce matin de gaspillage alimentaire dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets qui se déroule du 16 au 24 novembre 2024. Et nous sommes pour cela en compagnie d'Annie, qui est gérante du magasin Biocop de Saint-Jean-en-Royan. Bonjour Annie.
Bonjour.
Annie est passée nous donner ses trucs et astuces pour limiter le gaspillage alimentaire, pour gaspiller moins. Et on peut peut-être commencer donc par une question assez générale sur le gaspillage alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire chacun et chacune chez nous dans notre cuisine pour éviter donc ce gaspillage alimentaire?
La première des questions à se poser, c'est peut-être effectivement de prendre réellement ce dont on a besoin pour se faire à manger, pour cuisiner. Et ne jamais trop stocker ou aller vraiment au-delà de ce qu'on a réellement besoin. Et c'est vrai que pour cela, le vrac constitue vraiment un avantage intéressant, parce que on va vraiment choisir la quantité nécessaire à la réalisation de la cuisine du jour, de la semaine.
Donc ça commence au moment des courses, finalement faire ses courses régulièrement et ne pas acheter de trop grandes quantités.
Tout à fait, oui, parce qu'acheter en trop grande quantité, déjà, on a le risque que les denrées s'abîment avec le temps, prennent l'humidité, etc. Et effectivement, le risque aussi qu'on achète plus que ce qu'on a besoin et que finalement, tout ce qu'on n'a pas mangé finisse ou à la poubelle ou dans le compost. Alors, le compost, c'est bien, hein, mais ça sert effectivement à nourrir la terre, mais ça fait partie vraiment aussi du respect aussi de la production alimentaire destinée à l'usage de l'homme.
Et donc une fois cette étape des courses, une fois qu'on a nos aliments chez nous, est-ce qu'il y a d'autres petits conseils qu'on peut donner pour limiter le gaspillage une fois qu'on va se retrouver donc à cuisiner chez nous?
Alors d'autres conseils, effectivement, ce sera d'optimiser tous les ingrédients qu'on achète, c'est-à-dire utiliser vraiment les épluchures, manger entièrement le légume. Par exemple, le pied du brocoli qu'on a souvent tendance à oublier, à mettre de côté, il contient aussi une partie assez excellente que j'adore d'ailleurs et qui serait dommage de jeter. Et puis pourquoi pas aussi quand on cuisine... Par exemple, quand on a trop de pâtes ou de riz, de refaire un gratin derrière, voilà, vraiment optimiser, tout réutiliser dans une autre préparation. Alors les soupes, voilà, on fait une soupe, on récupère tous les anciens légumes qu'on a cuisinés et on en fait une soupe. Voilà, c'est vraiment optimiser au maximum tout ce qu'on a acheté.
Un peu finalement d'organisation et de réflexion dans sa cuisine pour ne rien gâcher.
Et du bon sens.
Vous parliez donc tout à l'heure du vrac comme l'un des axes les plus efficaces pour limiter le gaspillage alimentaire. C'est une manière de consommer qui s'est développée ces dernières années?
Alors ça s'est développé ces dernières années par rapport aussi à un contexte d'économie. C'est vrai que chez Biocoop, le vrac est présent dans les magasins depuis une vingtaine d'années. Mais c'est voilà, c'est des habitudes de consommation qui commencent à venir petit à petit. On trouve de plus en plus de vrac de partout. Pourquoi le vrac? Parce qu'on vient avec son bocal, on le fait tarer en magasin, on remplit uniquement ce dont on a besoin. Donc ça limite les emballages, ça limite le surplus d'achat alimentaire. Et c'est tellement plus agréable de pouvoir acheter soi-même tous ces ingrédients de base. C'est plus économique. Et c'est un plaisir de pouvoir goûter un petit peu à tout.
Et est-ce que vous constatez donc dans le magasin Biocoop de Saint-Jean-en-Royan que le vrac progresse? De plus en plus de clients, de clientes font appel à ce mode de consommation?
Alors, il y a une progression, il y a surtout des habitudes de consommation qui changent et la plupart des gens qui rentrent dans le magasin prennent quelque chose en vrac. Alors, le vrac, il y a tout ce qui est vrac... épicerie sèche, mais il y a aussi tout ce qui est fruits et légumes. Donc dans le magasin, nous fournissons des emballages papier, mais nous préconisons aux clients de ne pas en prendre ou de ramener leur propre sac pour prendre un citron ou un oignon. Voilà, on n'a pas besoin forcément d'emballage. Et au moins, voilà, on prend, si on a besoin juste d'un citron, on prend un seul citron et tout va bien. Et il y a aussi donc tout ce qui est à la coupe, donc que ce soit les fromages ou tout ce qu'on peut trouver dans d'autres magasins à la coupe, c'est aussi une limitation des déchets et l'assurance de prendre uniquement ce dont on a besoin pour éviter de gaspiller.
Est-ce que vous constatez que certains ou certaines ont encore des réticences à acheter en vrac ?
Oui, il y a encore des réticences parce que on a pris des habitudes de consommation à avoir son emballage tout prêt ou des produits ultra transformés tout prêts parce que c'est rapide, c'est facile. Après, bon, voilà, c'est souvent ce genre d'aliments qui sont gaspillés en priorité. Et il y a aussi les réticences vis-à-vis de l'impact sur l'hygiène. Alors, effectivement, hein, on peut craindre les poussières, on peut craindre les parasites et les nuisibles, on peut craindre plein de choses. Ça fait partie du jeu, du risque, mais il y a quand même beaucoup plus d'avantages à partir sur ce mode de consommation que d'inconvénients.
Et les gens, ils sont sensibles globalement?
Oui, 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 ils sont sensibles et on remarque aussi le côté gourmandise où les gens testent tel biscuit ou tel petit chips apéro.
En petite quantité.
En petite quantité, voilà, pour se faire plaisir, pour goûter, pour voir si ça nous plaît finalement, plutôt que d'acheter un paquet entier et dont on ne sera pas sûr du résultat pour les papilles de la maison.
Et puisqu'on parle de gourmandise, on peut justement peut-être faire le lien sur le gaspillage alimentaire, le fait d'acheter en vrac, mais aussi le fait que gaspiller moins, c'est aussi manger mieux, choisir d'y passer plus de temps.
Oui, tout à fait, parce que du moment qu'on achète nos produits en vrac, ce seront souvent des produits bruts, des matières premières en quelque sorte. Donc ça inclut qu'on va nous-mêmes faire la cuisine, les transformer pour que la farine devienne un gâteau, pour que les pâtes deviennent un gratin ou autre chose. Et effectivement, manger mieux, c'est le vrac, c'est aussi moins d'ultra transformation qu'on peut voir un petit peu dans les dérives de l'industrie agroalimentaire.
C'est finalement porter plus d'attention à ce qu'on va mettre dans son assiette et
exactement.
Dans son corps finalement. Et au niveau peut-être du magasin Biocoop, quelles sont les actions pour limiter? Donc là on parlait plutôt du gaspillage alimentaire chacun chez soi dans son quotidien, mais il y a aussi donc des actions qui sont mises en place pour limiter ce gaspillage au niveau du magasin Biocoop. Est-ce que vous pourriez nous détailler ces actions?
Alors par exemple quand certains produits vont arriver en date courte ou en passer en denrées périssables, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mises en avant en stickant les produits pour inciter peut-être les consommateurs à aller sur ce type de produits, même s'ils sont en fin de vie. Donc voilà, c'est une mise en avant pour éviter de les perdre quelque part.
Avec des réductions appliquées sur ces produits.
Tout à fait, oui. Et il y a aussi donc une partie des produits qui vont être donnés, par exemple aux associations sociales locales comme les Restos du Cœur ou la cantine solidaire. Et il y a aussi une partie qui est récupérée pour ces denrées qui sont un peu abîmées, une partie qui est récupérée par l'équipe du magasin. Ça permet de revaloriser un petit peu tous ces ingrédients-là, d'en faire profiter l'équipe et de tester des recettes.
Et malgré ça, malgré toutes ces mesures, est-ce qu'il y a quand même des aliments qui sont jetés ?
Il y a quand même des aliments qui sont jetés parce que il y a des aliments qui sont vraiment très abîmés. Ça arrive, de la casse avec des bouts de verre, etc. Malheureusement, ça fait partie du quotidien. Et il y a une partie qui va en retraitement de déchets. Donc nous, on travaille avec une entreprise qui est sur le Vercors, qui vient collecter un petit peu tout ce qui est déchets verts qui sont vraiment très très abîmés et non pas réutilisables en alimentation humaine. Il les collecte et il les transforme en terreau qui sera ensuite réemployé dans la terre.
Donc ça, c'est pour toute la partie essentiellement fruits et légumes.
Fruits et légumes, exactement. Après, réellement, en vrac, on a en vrac donc tout ce qui est épicerie classique, biscuits, riz, pâtes, céréales, etc. On a très très peu de casse. Il peut y avoir de la perte avec une infestation de nuisibles. Ça arrive. Malheureusement, ça fait partie du jeu du vrac. Et dans ce cas-là, effectivement, ça vient aussi enrichir le compost. Et tout ce qui est fromage, je vous avoue, il n'y a pas beaucoup de casse.
On ne laisse pas le fromage se gâcher, c'est
exactement.
Un sacrilège. Et vous me parliez tout à l'heure donc de l'aspect des dates courtes, donc des produits qui arrivent à leur date de péremption. Et vous avez employé hors micro pendant qu'on préparait cette interview la formule améliorer la durée de vie des produits. En quoi est-ce que ça consiste?
Alors là, c'est surtout le réseau Biocoop qui travaille main dans la main de façon pérenne avec ses producteurs et fournisseurs pour essayer de trouver des solutions pour améliorer la durée de vie de chaque produit. Donc ça va des recettes d'élaboration jusqu'à des réflexions en fait sur les durées de vie des produits, tout simplement en respectant bien sûr les normes d'hygiène et de qualité. Mais il y a un travail de fond qui va dans ce sens-là, qui est réalisé, oui.
Peut-être qu'il y a aussi un aspect d'éducation des consommateurs sur ces dates, parce que je crois donc qu'il y a une différence entre la date limite de consommation et la date idéale ou quelque chose
oui,
comme ça.
Oui, tout à fait. Donc il y a tout ce qui est date limite de consommation, ce qu'on appelle vulgairement les DLC. C'est là, ce sont des dates qui sont vraiment, en termes d'hygiène, qu'on ne doit pas dépasser. Par exemple, ça sera... les viandes, voilà, les viandes, on va pas s'amuser à les garder trois jours après. Bon, là, il y a quelques risques quand même. Et après, il y a tout ce qui est date de durabilité minimale ou DLUO, date limite d'utilisation optimale. C'est des termes, voilà, qui sont un petit peu barbares, mais en gros, ça veut dire que les produits, on conseille de les consommer jusque-là. Par contre, après, ils ne seront pas dangereux pour la santé, mais ils auront perdu des qualités organoleptiques ou de goût ou d'odeur, mais ils seront toujours bons à la consommation. Voilà. Donc ça, on va dire que c'est la grande majorité. Des produits et il ne faut pas avoir peur d'aller sur la consommation de ces produits-là après la date, sauf si effectivement il y a un défaut d'aspect ou quelque chose qui donnerait à penser qu'ils sont très 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 abîmés.
Et est-ce qu'il y a des produits qui ne se périment pas du tout?
Alors,
on m'avait parlé du miel notamment.
Le miel, effectivement, parce qu'il est chargé voilà en sucre ou en fructose et qui permet la consommation. Les huiles, du moment qu'elles ne sont pas rancies, enfin qu'elles ne sont pas rances, on peut dire qu'il n'y a pas forcément d'altération nuisible à la santé. Il y a pas mal de produits, les céréales. Voilà, si elles sont pas abîmées, elles se gardent, c'est pareil, hein, faut pas qu'il y ait de fermentation, c'est du bon sens, voilà, on prend le temps quand même de vérifier l'aspect visuel du produit, l'odeur, et puis on peut goûter, et effectivement, si on a un doute, on évite de jouer, mais normalement, il n'y a pas forcément de risque sur ces produits-là.
Donc on peut faire confiance aussi à ses yeux, son nez,
son instinct. Et le goût.
Eh bien, merci beaucoup, Annie. Donc, je le rappelle, gérante du magasin Biocoop de Saint-Jean-Royan, qui est venue passer en revue donc les trucs et astuces anti-gaspillage alimentaire dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets qui se déroule du 16 au 24 novembre 2024.
Merci.
On écoutait donc Annie Niro, la gérante de la Biocoop de Saint-Jean-en-Royan, donc qui partageait à la fois ses trucs et astuces personnelles donc pour lutter contre le gaspillage alimentaire, mais qui parlait également des actions donc mises en place à la Biocoop. Et on le disait tout à l'heure avec nos invités, donc la lutte contre le gaspillage alimentaire, ça réside dans des choses très concrètes, de l'organisation, beaucoup de détails. Brice, donc du Citrade, vous faites des ateliers de sensibilisation et vous utilisez, je crois, différents outils lors de ces ateliers pour sensibiliser le public.
Oui, effectivement, on essaie au niveau de l'ingénierie de création de rendre les sensibilisations un peu plus ludiques et facilement assimilables. Et il y a plusieurs outils dans ce cadre-là qui sont mobilisés, dont l'un qui est effectivement présent ici, hein, c'est le jeu du réfrigéré ou le jeu du frigo. L'objectif de ce jeu, c'est d'attirer l'attention du consommateur sur l'utilisation optimale de son réfrigérateur. Parce que très souvent, on l'utilise mal, on range mal la nourriture, les restes alimentaires. Et quand ça perd le goût, finalement, le réflexe qu'on a, c'est de le foutre à la poubelle. Et donc, dans le jeu du réfrigéré, il y a déjà savoir utiliser son réfrigérateur, la partie congélateur et les parties tempérées ou le bac à légumes, comment ranger, mais également comment mieux emballer son reste alimentaire ou sa nourriture, ou comment mieux déballer ses courses pour pouvoir les ranger de manière optimale pour réduire autant que possible le fait que ça varie ou pas. Donc le jeu du réfrigéré, c'est assez ludique parce que on distribue des cartes aux visiteurs de nos stands et on leur demande de ranger en ordre, alors que nous, bah, peut-être pour jouer le jeu, on a foutu le bordel dans le réfrigérateur et on s'attend à ce qu'ils remettent en ordre. Ça remet en fait le sujet et on discute et on arrive à... Je prends un exemple sur la viande et le poisson. Je le disais tout à l'heure avec des visiteurs du stand du Citrade. La viande et le poisson peut se retrouver à la fois dans le congélateur, dans le réfrigérateur ou juste dans la cuisine. Tout dépend de la programmation du repas. J'ai décidé de cuisiner ma viande dans 2, 3, 4 jours. Je la mets au congélateur. J'ai décidé de me faire une belle soupe ce soir avec un poisson. Je le mets juste au réfrigérateur ou à l'air libre parce que je vais juste le laver et commencer à l'assaisonner et tout et tout. J'ai décidé de le cuisiner là maintenant. Je viens de l'acheter en grande surface. J'ai juste à le nettoyer. Voilà. Donc, en fonction de la programmation, on arrive. Donc, on a le jeu du réfrigéré. On a également ce qu'on appelait ça, c'est le jeu du réfrigéré. C'est typiquement sur le gaspillage alimentaire. On a aussi des jeux de tri également. Voilà, ça peut être la pêche aux déchets, voilà, qui remet en fait le sujet du tri, parce que c'est vrai, on parle de la réduction des déchets, mais l'autre pan, c'est aussi de savoir comment mieux trier ces déchets. Et on a d'autres astuces qui sont pas forcément des outils, mais qui sont des recueils d'astuces. Par exemple, j'ai vu en écoutant Monsieur Vincent. Concernant les cantines, il a été recommandé, par exemple, de mettre le pain à la fin de la chaîne. Parce que avec des exercices qui ont été faits, quand le pain il est au début de chaîne, les enfants, quand ils arrivent, ils ont tout de suite faim. Donc, leur premier réflexe, c'est de prendre 2-3 morceaux de pain et que finalement, après avoir fait toute la chaîne, ils se retrouvent à ne pas consommer et à jeter. Or, quand on met le pain en fin de chaîne, quand l'enfant il a fini de se servir, son assiette est pleine, généralement le réflexe, il s'est dit que le pain, il a besoin juste d'un morceau de pain et ça passerait. Donc, il y a plusieurs outils qu'on essaie de développer. Et en plus, on est présent auprès de plusieurs publics. On a également l'escape game qu'on a, ça on appelle l'escape game zéro déchet. C'est un escape game, hein, c'est un jeu d'énigmes à résoudre sur la question de la prévention des déchets. C'est un jeu qui s'adresse plus aux personnes, on va dire aux adultes, et également lui on l'utilise pour la sensibilisation des entreprises et des administrations. Donc on a quelques outils en fonction du public et en fonction de la thématique abordée. Voilà un peu.
Et si on peut passer éventuellement à un exemple d'application du zéro gaspillage dans son quotidien, Vincent Jordon de la CCRV qui change de casquette et qui va nous parler plutôt de sa vie personnelle, comment il s'organise dans sa vie personnelle pour limiter le gaspillage et les emballages d'ailleurs en général.
Oui, bah c'est un peu ce qu'on a évoqué tout au long de la table ronde. Mais comme disait Bastien, moi c'est un peu de la même manière. J'ai commencé à réfléchir à mon alimentation et comment je cuisine et qu'est-ce que je prévois dans la semaine en ayant en fait des paniers de légumes en fonctionnant avec une AMAP dans mon école. Et une fois qu'on reçoit les légumes, on se dit bon maintenant qu'est-ce qu'on fait et maintenant je garde un peu cette cette façon de faire, c'est-à-dire que quand je vais sur le marché, je me dis, oh, tiens, il y a des beaux choux-fleurs, bon, bah, allez, je prends un choux-fleur, ou il y a tel ou tel produit que je prends, et puis sans savoir vraiment derrière qu'est-ce que je vais faire exactement, ou alors j'ai une idée sur le marché, et puis derrière je le prends, mais sans prendre pour la semaine entière. En général, je vais me fournir en produits frais deux fois par semaine. Et puis une fois que je suis chez moi, je me dis, bon, alors maintenant que j'ai un choux-fleur, j'ai un poireau, j'ai ceci, cela, bah, quelle recette je peux faire? Et en fait, c'est tout un travail un peu de réflexion de comment assembler les différents produits que j'ai. Et derrière, s'il me manque quelque chose, eh ben, je fais pas le plat de chou-fleur le soir même parce qu'il me manque le lait pour la béchamel, par exemple. Du coup, je fais autre chose qui traîne dans le frigo. Et derrière, le lendemain, je sais que sur le retour du travail, je passe à Biocoop, j'achète un litre de lait et puis hop, je fais mon repas. En fait, je pense qu'il y a une histoire un peu de passion ou d'envie autour de la cuisine. C'est pas du tout une tâche à accomplir. C'est vraiment une envie de créer, de faire quelque chose de bon et puis quelque chose aussi de militant, quoi, d'avoir envie de cuisiner des bons produits qui rémunèrent le producteur et qui sont écologiques et qui sont bons pour ma santé aussi. Et derrière, voilà, je vais avoir ce petit travail de créativité au fur et à mesure des jours pour utiliser tout ce que j'ai dans mon frigo ou à côté.
Donc finalement, c'est une attention portée aussi à son alimentation, à une manière de prendre soin de soi aussi, de consommer de cette manière-là. Puisqu'on peut faire le lien, le thème de la semaine européenne de réduction des déchets, c'est donc manger mieux, gaspiller moins. Et donc il y a aussi cet aspect manger mieux qui rentre en compte. Donc si je récapitule un petit peu les trucs que vous avez donnés, donc c'est une bonne conservation de ses aliments, savoir comment bien conserver ses aliments, faire ses courses de manière raisonnée, ne jamais avoir faim quand on va faire la cuisine.
Quand on va faire les courses. Oui. Jamais, jamais, jamais.
Oui, il faut laisser parler plutôt le côté rationnel et pas son estomac.
Exactement.
On peut passer peut-être donc en lien avec ce côté vie personnelle, comment on limite le gaspillage dans sa vie personnelle, aux questions du public. Si vous avez envie de poser une question à nos invités, donc pour savoir comment vous organisez par exemple pour gaspiller moins dans votre quotidien ou sur un autre aspect qu'on a pu aborder pendant la table ronde, n'hésitez pas, on a un micro qu'on peut vous faire passer dans le public, donc si vous souhaitez préciser quelque chose. Ou sinon, Bastien, qui voulait rajouter quelque chose.
Par exemple, parce qu'on parle de comment emballer les produits, comment les garder, mais il y a aussi un truc qui est super important, c'est la taille du frigo. Moi, je sais que j'ai réduit la taille de mon frigo de manière considérable, parce que je me rends compte que, comme je le disais tout à l'heure quand on partait en festival, il y a quand même plein de produits frais qu'on n'a pas besoin de mettre dans un frigo, notamment les légumes quand on vient de les acheter. Les légumes, il y en a plein qui n'ont pas besoin d'y être. J'ai ma frangine par exemple que je peux prendre comme exemple qui a été sans frigo pendant 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça, et qui gardait son beurre tel quel quand elle l'achetait. Alors oui, il faut retourner un peu plus régulièrement au magasin pour aller faire ses courses, mais par contre déjà réduire la taille de ce qui sert à stocker, c'est aussi une manière d'éviter d'avoir trop de déchets. Parce qu'avoir des trucs qui traînent au fond du frigo qu'on n'a pas vu parce qu'il y a tellement de trucs devant, bah du coup en fait on finit toujours par les jeter, ça moisit, ça pourrit, tu l'ouvres, tu te dis putain c'est quoi ce truc là, tu vois, je me rappelle même plus de ce que c'est. Et donc du coup c'est vachement important, quoi. Voilà. Le stockage.
Écoutez, si personne ne souhaite poser de questions, je pense qu'on va terminer ici cette table ronde donc qui portait sur le gaspillage alimentaire, donc organisée par la communauté de communes Royan-Vercors en partenariat avec Radio Royan-Vercors. Un grand merci à vous tous et vous toutes qui nous avez accompagnés, donc tous nos invités. Et merci bien sûr à Jean-Claude pour l'aspect technique de l'enregistrement de cette émission. Et puis, très bonne journée à tous.
Merci.
Au revoir.